Autre radio, autre culture, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Jacquot. Bonjour Pierre.
Bonjour Marion.
Qui est ingénieur du son et propriétaire du Jack's Home, qui est son studio.
Voilà, petit studio construit autour de mon, et j'allais dire notre activité, puisque maintenant je travaille avec mon fils Antoine dans ces lieux qui ont démarré dans notre maison sans qu'on l'ait vraiment prémédité. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé un petit peu entre guillemets Jack's Home, parce que c'était avant tout notre maison qui est devenue, dont un petit coin était consacré à la préparation des projets, puis comme souvent ça a un petit peu débordé. Je m'étais pourtant bien juré de ne pas refaire un studio tout de suite, parce que j'étais sorti de l'aventure en me réclamant d'une grande liberté, me sentant freelance dans l'âme et en ayant envie d'écumer les endroits au gré des projets, avec leurs qualités et leurs défauts. Et puis là je me suis retrouvé à refaire mon studio, voilà. C'est de ma faute, et ça ne ressemblait pas à un studio, donc je ne me suis pas méfié. Voilà. Et aujourd'hui, ce studio a déménagé, il n'est plus dans le lieu historique qu'il a vu naître, puisqu'on a déménagé il y a peu de temps, 8 mois maintenant, et qu'on est dans un endroit qui est dévolu à l'activité. C'est vrai, c'est devenu un studio à part entière.
Alors vous ne voyez pas Pierre, parce que vous nous écoutez, mais si vous l'éveillez comme moi, en face de moi, c'est un homme à bijoux. Je ne sais pas si c'est un homme à femme, mais c'est un homme à bijoux.
Oui, mais les femmes sont des bijoux. Voilà, oui, s'en est bien sorti. Oui, j'aime bien, ouais, j'aime bien, enfin, je crois que c'est un truc qui a toujours existé, ça, le fait d'avoir des petits trucs pour rappeler, pour souligner, pour marquer une identité, pour un match. Et puis c'est des périodes. Il y a des périodes où je vais me contenter de mon alliance, comme quoi je suis un homme à femme, mais une seule.
Oui.
Et il y a des moments où je vais avoir envie de mettre plein de bijoux. C'est selon les humeurs.
Donc ce sont les humeurs positives dans ces cas-là ?
Ouais, ces humeurs. Oui, je crois que ça correspond. Alors, j'ai jamais analysé le truc. Ce serait peut-être rigolo de se pencher là-dessus, mais je crois que ce sont les moments entreprenants, ouais, qui sont soulignés de plus d'attention sur tous les plans, donc y compris celui-là, ouais.
Donc le jour où on vous voit avec plein de colliers, plein de bracelets partout.
Si je ressemble à Mr. T, voilà.
C'est vraiment le 7e ciel.
Alors là, c'est que c'est une époque de projet dans tous les sens. Non, j'irai pas au-delà. Une bague par doigt, après, bon, ça fait charger, quoi.
Fin des années 50, tout début des années 60, donc vous êtes un tout petit garçon,
ouais.
Et vous avez une éducation musicale.
Oui, alors en fait, le historiquement, le tout début, je pars faire un petit tour en Angleterre parce que ma maman se destinait à enseigner l'anglais en France et qu'elle m'emmène avec elle pendant 2 ans là-bas. Donc mes premiers borborismes sont plutôt anglais que français, ce qui m'aidera par la suite. Et puis très vite, quand je reviens en France, alors c'est marrant, l'origine, c'est mes parents sont d'éducation religieuse, donc je vais, comme tous les petits garçons qui sont dans cette mouvance-là, à la messe, et j'ai la tête tournée vers le buffet de l'orgue plutôt que vers l'autel. Et je suis fasciné par cette espèce d'instrument dont peuvent sortir les sons les plus ténus ou les fortés les plus expressifs. Et ça me fascine, ça exerce une fascination énorme. Et ça restera toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'œuvre de Bach que je réécoute quand j'ai envie de me ressourcer. Alors maintenant, ça peut être au piano plutôt qu'à l'orgue, parce que je suis à moi tout seul le fan club de Glenn Gould. Ça va rester tout le temps. Et donc je vais entreprendre des petites études, parce que je suis tout petit, j'ai 4-5 ans, je vais entreprendre des études de piano, comme un jeune homme de bonne famille. Mais pour moi, le piano a un petit peu de contrainte, parce que c'est en attendant que mes jambes poussent pour accéder au pédalier et faire de l'orgue. Et donc, ma prof me répétera à l'envi que pendant ce temps-là, je progresse et que je serai prêt pour l'orgue dans environ 17 ans. Donc, je m'impatiente un peu et au bout de 12 ans de ce régime-là, parce que c'est 12 ans de ce régime-là, alors pas très assidu, faut être honnête, je pense que j'ai dû accumuler le savoir de 7-8 ans piano classique bien mené, mais pendant 10-12 ans, je m'obstinerai à le faire quand même. Je vais arrêter, je vais partir du côté des groupes de rock.
Pour jouer de quel instrument ?
Alors du clavier, toujours, bien sûr, toujours parce que c'était quand même mon instrument central et c'est celui dans lequel j'avais un peu de savoir-faire. Et donc ça tournera d'abord à l'orgue, c'était pas encore l'époque des synthés vraiment, et puis ce sera les synthés ensuite. Et je vais donc avoir une chambre d'ado rempli de vieux instruments qui coûtaient pas grand-chose à l'époque, car ma fortune était réduite, mais qui débordaient de branchements hétéroclites, de prises bananes branchées sur les sorties casques pour aller dans des amplis à tubes qui déjà fabriquaient un peu le son. Et je pense que la graine d'homme de son était déjà un peu dans tout ça, parce que le synthé était déjà à lui tout seul un instrument à modeler le son, à fabriquer et à travailler cet aspect-là des choses. Donc il y avait à la fois la dextérité sur le clavier et la possession du clavier, mais il y avait toute cette fabrication du son. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, déjà, l'idée était un peu jetée, quoi. J'étais parti par là.
Justement, qu'est-ce qu'on ressent quand la première fois qu'on a une éducation de piano classique, quel effet ça fait de se retrouver devant des synthés pour la première fois?
C'est-à-dire que mon éducation de piano classique, elle était sérieusement pervertie depuis un moment, c'est-à-dire que très progressivement j'ai dégradé les choses, je me suis mis à écouter tout autant les Beatles que Bach, et j'écoutais Deep Purple à l'époque, j'écoutais Emerson, Lake and Palmer, où la culture du clavier est plus que présente. Et donc déjà, d'ores et déjà, j'avais compris qu'on pouvait faire cohabiter, parce que quand on prend le cas de Keith Emerson, qui était un pianiste d'une culture incroyable d'ailleurs, et d'une grande dextérité, c'était un bosseur fou, il était capable de jouer des réductions d'orchestre pour piano de tous les grands compositeurs classiques, tout aussi bien que de prendre un Moog, de le faire l'arsener, de planter des couteaux dans un orgamon. Donc on était déjà dans, on va dire, la transgression des règles, mais des règles bien comprises. Et j'étais déjà attiré par ça, moi. Donc quand j'ai vu arriver le synthé, c'était quelque chose de clairement mûri. J'avais envie d'aller du piano vers le synthé. Pas tellement envie d'abandonner le piano, ça gardait toutes ses lettres de noblesse, mais j'avais très envie de découvrir le reste, quoi.
L'arrivée des premiers pianos numériques...
C'est tard pour moi, c'est très très tard. Oui. C'est bien après tout ça. Pour moi, alors, quand je commence à faire de la musique de Jones, comme on dirait aujourd'hui, je découvre le Mini Moog que je m'achète avec des aménagements financiers à peine pensables. J'ai l'impression d'acheter une voiture en or massif. Et je m'achète un vieux clavinet et je m'achète un vieil orgue pourri parce que les hamons étaient absolument inaccessibles.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est un farfisouille avec des petites tirettes pour faire comme l'orgue à hamon, mais ça sonnait quand même comme un sac de clous, il faut bien reconnaître. Et on aménage tout ça, on fait comme on peut et on remplace les maillons faibles. Et l'équipement idéal, c'était celui, alors on va dire, des pianistes de rock progressif ou de jazz rock comme Correa, c'est-à-dire un Mini Moog, un clavinet, un piano Rod et un grand piano et si possible un B3, quoi. Voilà, ça alors c'était la panoplie ultime du parfait clavier.
À 17-18 ans, c'est le moment du bac et vous décidez de partir.
Je me sauve lâchement.
Vous vous sauvez à ce moment-là.
Ouais.
C'est pas le fait de se sauver et d'aller jouer avec ses copains en Angleterre ou ailleurs en tournée pendant 2 mois. Je me pose toujours la question, parce que je pense à nos jeunes auditeurs, la crise familiale a-t-elle eu lieu?
Oh, elle a eu lieu et j'étais en tête de liste. J'étais un grand rebelle dans l'âme et j'avais des parents qui étaient assez cool, somme toute, vu de mon œil d'adulte aujourd'hui. Ils ont assez bien analysé les choses, c'était pourtant assez risqué. Mais oui, j'étais en rébellion complète, j'avais une maman professeure, donc, et j'avais un papa qui avait fait des études d'une manière extrêmement méritante, en payant l'essentiel lui-même par ses jobs d'été. Enfin, j'étais dans la voie était tracée, il fallait que je fasse des études, puis on aurait discuté après, sauf que vraiment, c'était pour moi totalement inacceptable, mais moi, j'étais pas dans ce trip-là, et c'était quasiment jouissif de partir 3 mois avant le bac, de provoquer tout le monde, en ayant en plus des résultats scolaires excellents dans certaines matières. Donc je montrais par là mon mépris total de la voie royale, et je choisissais une autre. Ce qui est complètement idiot aujourd'hui, si on pense à nos jeunes auditeurs, comme vous le disiez à l'instant. C'est très clairement, c'est absolument idiot. Ça va avec la période d'adolescence où on veut se prouver aux autres à toute force, et y compris avec les mauvais arguments, des tas de choses. Il vaut mieux exister à travers d'autres choses, je pense très honnêtement. Mais c'était ma manière à moi de dire aujourd'hui, je veux choisir la musique, même si c'est un choix difficile et même si c'est avec ses valises de risque et je le fais comme ça. Dans l'école, avant d'en partir, j'étais parmi ceux qui menaient les grèves de lycéens, les machins, les trucs. Je voulais exister comme une personne reconnue. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je suis papa d'ado et d'adolescente, fille, et je leur explique le fait que, qu'il ne faille justement pas aller dans l'excès à ce niveau-là. Et je pense que la meilleure arme, c'est le dialogue. Je manquais sans doute un peu de dialogue à l'époque avec mes parents. C'était un petit peu difficile. On en avait sur certains plans et pas sur d'autres. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait que je n'ai pas contrôlé ce passage-là. J'ai eu de la chance après parce que je suis devenu travailleur. Je ne l'étais pas tellement à l'époque. Je suis devenu bosseur parce que j'avais beaucoup à prouver. Parce que j'étais parti dans une direction très, très dissidente. Donc, il était urgent de s'y mettre. Et après, c'est un ensemble de chance et de volonté et de... Voilà, on a la chance qu'on attire, quoi. Et il faut avoir un peu la culture de la chance, je crois. Il faut savoir la lire. Il y a un truc que j'aime beaucoup philosophiquement, c'est de se dire qu'on a à peu près tous la même dose d'indices qui nous sont envoyés sur le parcours possible, et puis qu'il y en a qui les voient et d'autres pas du tout. Je pense que les gens inspirés, qui ont de la chance à ce niveau-là, voient les petits points de repère qu'on leur envoie pour fixer le parcours, pour savoir quelle est l'étape à suivre, ce qu'il faut développer. Et d'autres ne voient pas le paysage. Je crois que c'est la différence entre les uns et les autres, essentielle. Donc j'ai eu de la chance, j'ai eu de la niaque, comme on dit aujourd'hui. Et puis, ces mêmes parents, alors pourquoi je disais qu'ils ont été très tolérants finalement et plus dialoguants qu'on ne pourrait le penser, c'est que par la suite, ils m'ont aidé à monter mon premier studio là-bas au milieu de la province, dans le pays du vin, en Bourgogne, où ils m'ont aidé à acheter la maison dans laquelle je vivais, à aménager le sous-sol en me faisant un prêt sans intérêt. C'était leur manière de me dire « démerde-toi quand même pour le rembourser et te débrouiller et vivre de ce que tu fais, mais on te fait crédit, on t'avance le truc ». J'ai fait mon premier studio là-bas, où j'ai enregistré des artistes intéressants, puis aussi tout et rien, et j'ai tout appris comme ça. La toute première partie du parcours était vraiment totalement autodidacte et assez désordonnée. Et évidemment, j'en ai assez vite vu les limites. Donc pendant que ma petite entreprise grossissait au cœur de la Bourgogne et devenait une espèce d'ensemble de deux studios, des petits studios, mais enfin bon, à l'époque, un 24 pistes et un 16 pistes, c'était pas rien. Très vite, moi, j'ai commencé à aller faire des tours dans des studios parisiens, aller voir des choses intéressantes et regarder travailler les autres. Et là, beaucoup de chance, des belles rencontres, des gens qui, un peu comme j'ai essayé de le faire par la suite, m'ont passé le flambeau en me donnant des points de repère, des choses à faire, des choses à ne pas faire, comment défocaliser quand on est en train de travailler sur une musique qui nous branche un petit peu moins, dans laquelle on est un peu moins impliqué, comment se concentrer sur la forme que ça peut prendre, comment... Et j'ai redécouvert le métier comme ça, quoi, vraiment, vraiment. À cette époque-là, une rencontre au milieu des autres, je loue, parce que mes deux cabines étaient pleines pour faire un groupe lyonnais, je loue un studio qui était libre, qui était le studio d'Auteuil. Et le studio d'Auteuil, il y avait tout le matériel dont j'aurais rêvé. Et quand je rencontre la personne, le propriétaire de l'époque, il me donne les clés, il me dit « débrouillez-vous, je suis pas là ». Et pendant deux jours, je vis là-dedans comme si c'était dans mon studio. J'aurais pu tout embarquer et partir au Brésil, mais justement, quand on vous fait ce genre de cadeau, c'est pas ce que vous avez envie de faire. Donc j'ai fait comme si c'était chez moi, j'ai balayé en sortant, j'ai tout rangé, j'ai éteint les lumières et j'ai été rendre les clés. Et en discutant avec cette personne, donc, il a décelé mon intérêt tout de suite. Et on a décidé de s'associer. On est parti pour 5 ans ensemble, où au début, il m'a salarié pendant 6 mois, le temps que j'emménage à Paris. Et puis ensuite, j'ai racheté les parts du studio, on est devenu associé. Et c'était, le studio d'Auteuil avait le vent en poupe, puisqu'on faisait toute la new wave de l'époque, Indochine, il y avait des artistes de variété comme Philippe Laville, il y avait plein de gens qui travaillaient là-bas beaucoup. Et donc j'en suis devenu l'ingénieur principal d'abord, puis le directeur d'exploitation pendant 5 ans. Et là, je me suis fait un carnet d'adresses sympa.
Oui, j'imagine quand on commence comme ça.
C'était génial. J'avais
pour la suite. Ouais,
ouais, j'avais 25 balais. Mes confrères étaient des gens qui sont devenus des modèles par la suite, comme Claude Sahakian à plus 30 ou Claude Hermelin à Davout, des gens comme ça, avec qui ils avaient tous 20 ans de plus que moi et tout le background qu'on connaît. Et donc, d'un seul coup, et ça élève le niveau, ça met la barre un peu plus haut. Il fallait être. Un peu visionnaire. Alors, c'était marrant, il fallait toute l'énergie de ces 20 ans pour le faire, puisque la journée, on faisait des séances, puis à l'époque, on comptait pas son temps, on faisait souvent des séances de 12-14 heures, et puis le soir ou tôt le matin, on faisait l'administratif de la boîte, enfin, il restait pas beaucoup de temps pour dormir.
Dans votre CV, j'ai vu mentionner Peter Gabriel. Quels ont été vos contacts
C'est une accroche très rigolote. 3 ans après les débuts du studio d'Auteuil, Je sympathise de manière très appuyée avec un musicien qui par la suite sera directeur de l'Orchestre National de Jazz, qui est Antoine Hervé. Et Antoine m'emmène, me convainc du fait qu'il veut, ayant fait un disque avec moi, il souhaiterait me confier la sonorisation de l'orchestre, de son orchestre d'abord à lui, puis de l'Orchestre National de Jazz après. Dedans, j'ai fait la rencontre de plein de musiciens passionnants, André Ceccarelli, des gens qui compteront beaucoup dans ma vie par la suite. Et puis au milieu d'un tromboniste, Glenn Ferris, qui est un Américain, et qui me demande de finir un projet qu'il avait entamé de longue date, un projet musical, et puis qui décide d'aller le mixer dans le tout nouveau studio de Peter Gabriel. Et là, on arrive, il venait d'enregistrer et de sortir l'album So, dont on connaît le succès. Mm-hmm. Donc les royalties que ça lui a rapportées font qu'il déménage, change complètement de standing et monte le tout nouveau Real World, qu'on connaît bien maintenant. Et on est les premiers clients extérieurs à utiliser la structure de Real World. Et on arrive, on trouve un Peter Gabriel en short en train de tourner son café et qui nous demande pourquoi on est là, qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on fait. Là, j'ai la chance de parler anglais correctement. On sympathise un peu, mais je n'en espère rien d'autre qu'un moment assez inespéré. Et puis, j'aime tellement cet endroit, cette rencontre, que je convainc 3 mois après un client d'y retourner pour mixer un gros projet dans lequel je suis réalisateur et co-compositeur pour une musique pour Canal+, qui est de la world music avant l'heure avec des voix africaines. Et pendant qu'on mixe ça chez lui, Peter vient faire un tour, chapeau de paille et appareil photo, juste pour voir ce qui se passe et discuter. Et il craque sur ce qu'il entend et la manière dont on le gérait. Mais il ne m'en dit pas beaucoup plus sur l'instant, on repapote. Et puis 3 semaines après, il m'a appelé chez moi en me disant « Bonjour, c'est Peter Gabriel ». Je me suis pincé et il me dit « Que fais-tu demain ?»« Eh bien demain, je ne sais pas, mais je ne fais rien ». Il m'a dit « Ben voilà, je t'attends à l'avion de Bristol, on va faire des cordes à Londres, où est-ce que c'était ? Non, à Bristol, justement. D'abord, et puis ensuite on retourne chez moi et on va travailler sur une musique de film. » J'ai travaillé sur plein de segments, de petits segments, de la dernière tentation, en fait de la tentation du Christ, Last Temptation. Et donc j'ai côtoyé ces gens là-bas. Mais c'était assez lunaire, c'était l'époque où cet endroit était un peu le Beverly Hills européen, quoi. On croisait Sting, on croisait Kate Bush, on allait se faire un sandwich au Catherine, on croisait Bono, U2, j'ai vu Tears for Fears là-bas, discuter avec Orzabal, on se pinçait toutes les 5 minutes, quoi. C'était un truc.
Est-ce que vous étiez fan de Peter Gabriel ?
Totalement.
Sa période Genesis ?
Alors, je le connaissais moins dans sa période Genesis. Je l'ai mieux connu dans son tout premier album solo, où là, je l'ai un peu découvert en tant qu'artiste avec cette signature vocale si particulière, avec tout ça. Et puis, entre-temps, je l'avais un peu perdu de vue et l'album So me l'a ramené complètement en surface. Et c'est l'album que j'écoutais en boucle l'été précédent. Donc, j'avais vraiment l'impression de tordre le cou à un rêve de gamin. C'était vraiment l'aboutissement. Et je pense que ça m'a donné, au-delà du savoir, je pense pas que j'ai fait d'autres énormes progrès que ceux de devoir se comporter dans ce genre de situation avec ce genre d'artiste, il fallait être surtout le plus humble possible parce qu'on croisait des gamins de 20 ans qui étaient là en formation, qui venaient faire les tape opérateurs et régler les machines analogiques dans la cabine et qui, pour entraîner l'oreille, sifflaient les 9 commas entre 2 tons ou qui analysaient un coup de cymbale en trouvant tout de suite 7 ou 8 harmoniques alors que moi j'en entendais 4 ou 5. En me disant, et toi, qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner l'oreille ? J'avais bien du mal à répondre à cette question, si ce n'est en écoutant de la musique, mais je voyais bien que ça poussait derrière très très fort. Donc je suis rentré en France, là j'aurais eu probablement la possibilité de pousser cette voie-là un peu plus, mais j'avais l'impression qu'à ce moment-là, il fallait rentrer un peu. Le revers de la médaille, c'est que le nouveau Real World était aller travailler là-bas, c'était un petit peu rentrer dans les ordres. C'était un petit peu, on sentait bien qu'il était très présent même quand il n'était pas là, que tout le staff était fait autour de l'activité de l'artiste, de son activité de producteur, de son tout nouveau label de world music. Donc on sentait que c'était un énorme savoir et une expérience très riche en face de quelque chose d'assez monolithique. Et j'avais pas très envie de partir avec mes 2 garçons à l'époque et ma femme et d'aller vivre en Angleterre juste pour continuer quelque chose dont je pensais que ça m'enfermerait plus que ça ne me libérerait. Donc je suis revenu en France Et bien là, la France est ce qu'elle est et le monde est ce qu'il est. C'est-à-dire, quand on revient avec cette carte de visite-là, c'était beaucoup plus facile. Donc, j'ai eu tout de suite accès à des artistes internationaux, même en France. Et c'était, la deuxième partie, la partie assez royale de mon petit bout de carrière, puisque d'un seul coup, je faisais du premier plan, je choisissais ce que je faisais. Les gens me choisissaient pour une identité, pas seulement au hasard. Et voilà, c'était très différent, quoi.
Pour en revenir toujours sur Peter Gabriel, on sait qu'il est très exigeant, ne serait-ce qu'à l'écoute de ses disques, même dans ceux de Genesis, que ce soit dans les arrangements, c'est toujours très travaillé. On sent qu'il a une patte aussi au niveau du son, où il veut tel son et pas un autre. Qu'est-ce que vous avez pu grappiller chez lui et que vous avez utilisé après?
Pas énormément de choses directement, énormément d'impressions fortes et de lignes directrices, et presque pas de trucs et astuces. Parce que son outil est tellement construit autour de sa manière de faire. À l'époque, la grande cabine dont on voit tous l'image aujourd'hui quand on s'intéresse au son, qui est cette espèce d'église de verre au-dessus de l'étendue d'eau qui est en bas, n'existait pas. Elle était en construction. Et nous, on était dans le loft au-dessus, qui est un, comme son nom l'indique, une espèce d'immense grenier sous les combles, mais très très grand, avec des poutres, des conduits de canalisation entourés de bois pour pas qu'il y ait de métal à vue. Enfin, c'était très particulier. Et leur envie de l'époque était de pouvoir configurer le studio à volonté. Tout était possible, on pouvait déplacer la SSL sous un plomb de charge, c'était vraiment quelque chose de particulier. Alors, les choses très très étonnantes, c'est que je l'ai vu faire des voix sans casque. Ça, j'ai découvert que c'était possible. C'est-à-dire que lui disait que le casque l'isolait et que c'était pas ce dont il avait envie quand il faisait une voix. Donc l'idée était de faire les voix toujours avec un playback, avec un niveau extrêmement précis, de façon à se pouvoir le réenregistrer à travers son micro et le soustraire ensuite. Alors, sans rentrer dans la technique, c'est un truc qui est un poil rigoureux, compliqué, qui oblige à prendre beaucoup de points de repère. Et comme en plus il est capable de faire une phrase le 1er juin et la suite de cette phrase à fin octobre, il fallait vraiment être très cohérent dans ce qu'on faisait. Moi, je l'ai côtoyé, mais j'ai fait assez peu de séances en tête à tête avec lui. J'en ai eu deux ou trois, mais c'était vraiment surtout une expérience de méthode, de taille d'outils, de droit à l'essai, parce que c'est pas quelqu'un non plus qui exigeait des choses à contre-courant des gens, parce que par exemple sur des mix, je l'ai vu choisir des mix de certaines personnes, n'en laisser d'autres, l'expliquer aux gens, dire aux gens qu'il avait fait faire plusieurs mix d'un même titre, et puis les choisir en fonction des résultats, toujours avec une très très grande clarté d'ailleurs. Il est ce à quoi il ressemble, en fait. C'est un grand visionnaire. Il a son idée extrêmement arrêtée des choses. Et en même temps, il veut profiter de la force créatrice des gens. Donc, il les laisse aller au bout. Il laisse du temps. Il demande quand est-ce qu'il doit revenir écouter. Il y a tout ça. C'est le grand qu'on connaît. Donc, ça relativise beaucoup de choses. D'un seul coup, on le met en face de la quantité de travail que ça demande. Et je dirais que ça renforce le respect qu'on peut avoir pour une personnalité comme la sienne, qui en plus dure, se transforme en restant fidèle à elle-même au fur et à mesure des années. Moi, je regarde ses spectacles en DVD, je suis sur le cul, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est vraiment... Il y a énormément de... J'ai en tête, là, dans son dernier spectacle, le moment où il devient cadreur, il se prend une caméra et il filme les gens, il les déforme, il utilise la caméra comme un filtre. Et autant quand il se balade en vélo la tête en bas, ça m'amuse, mais ça me laissera peut-être pas le souvenir des souvenirs. Autant quand il fait ça, ça m'interpelle vraiment que personne ne l'ait fait avant lui. C'est un visionnaire, c'est un grand, grand créateur, quoi. C'est vraiment... Et la minute d'après, il fait un piano-voix tout seul autour des relations père-fils, où c'est de l'émotion pure. Enfin bon, c'est un mec qui se balade dans la création. On en manque, hein, de comme ça, on n'en a pas assez, hein. Il faut en trouver d'autres.
Vous avez travaillé aussi bien dans des studios en France qu'en Grande-Bretagne. Pour vous, qu'est-ce qui divise radicalement les preneurs de son dans les méthodes de travail?
Ça a divisé, ça divise moins. Je dirais, surtout historiquement, dans les pays anglo-saxons, ça a été un métier bien avant que ça soit un métier chez nous. C'est-à-dire que nous, notre histoire à nous, c'est que les maisons de disques ont eu leur studio, que dedans, on a mis des gens qui se destinaient pas forcément à faire du son, que les gens sont devenus des gens de son sur le tard et en se fabriquant eux-mêmes. Alors qu'en Angleterre, ça a été très très vite, les gens de son avaient une patte, avaient une reconnaissance pour ce qu'ils faisaient, pour ce qu'ils apportaient. En France, longtemps, la technique, c'était un mal nécessaire. Moi, j'ai eu des rapports avec des artistes de cette époque-là. Quelques-uns en sont revenus et ont pris le virage, mais Pour d'autres, c'était passer à travers le studio, c'était obligatoire, mais c'était jamais une partie de plaisir. Donc là-bas, c'était institutionnalisé bien avant. Les studios étaient conçus autour de l'exploitation et tout était à forte valeur ajoutée. Les outils, les gens, les endroits. En France, on a beaucoup tâtonné, puis on a pris nos points de repère, puis aujourd'hui, on peut dire rétrospectivement, mais peut-être 10 ans après qu'il y en ait eu en Angleterre, on a eu des DAVO, on a eu des endroits qui devenaient des endroits mythiques de l'enregistrement. Et pour les avoir côtoyés, par exemple, si on prend l'exemple de DAVO pour ne prendre que lui, s'il devait y avoir un hit parade, des endroits enregistrés à l'international que j'ai fréquenté moi, il serait dans les 3 premiers, quoi. Donc il y a aussi de sérieux endroits. Alors après, dans la méthode, c'est ce qui découle de ça. C'est-à-dire que comme ils ont commencé plus tôt, ils ont trouvé plus de choses plus tôt, ils ont participé à la création plus tôt, et d'un seul coup, on a vu apparaître des producteurs musiciens, des George Martin, des gens comme ça, qui avaient tout de suite une façon, qui avaient des idées, qui détournaient le but premier des outils, qui, écoutons les choses qui sont sorties de manière contemporaine des deux côtés de la Manche, avec les Beatles d'un côté et ce qu'on avait de notre côté à nous, c'était déjà très créatif. Hein. On avait des voix qui étaient déformées façon téléphone, on avait des batteries à gauche, des pianos à droite, on avait des choses, beaucoup de choses essayées. Toutes n'ont pas survécu, mais beaucoup de choses étaient essayées. Et je pense que c'est ça, et c'est ce qui a fait qu'on leur a couru après, c'est parce que c'était nos grands frères. Aujourd'hui, très honnêtement, le rêve anglais ou le rêve américain, c'est un tout petit peu dépassé. C'est-à-dire que moi, je connais des gens de son en France absolument merveilleux, et puis il y a des deux côtés, des gens plus moyens et plus anodins, et plus... Alors il y a des temples de l'enregistrement et les équipes qui vont avec, mais... Voilà, c'est partout et c'est uniforme. Il y a de temps en temps, on reçoit des choses qui viennent du Japon, qui sont traitées de manière absolument incroyable. Ça y est, c'est comme le reste, ça s'est mondialisé, quoi. Mais voilà, c'est chronologique. Ils ont été les premiers à le faire. Et en ça, ils se sont inventés une identité qu'ils ont fait survivre un peu. Quel fameux son anglais, quel fameux son dans lequel c'est pas, on monte pas tout à fait en haut de l'aigu. On travaille un son qui est très très juste dans le médium et qui est très travaillé à ce niveau-là et qui quelquefois, c'est fort hein, parce que c'est une signature. Nous, il a fallu attendre beaucoup plus de temps avant qu'on ait une signature sonore identifiable.
L'oreille est suggestive, oui, ça y est, j'arrive à le dire. Vous rendez-vous compte, par exemple, de différences de choix de micro par les ingénieurs de son de différents pays ?
Oui.
Pour un type de voix, par exemple ?
Oui. Enfin, alors là, on en revient à la notion d'habitude et de culture. Ah tiens, je vais vous raconter une anecdote rigolote, par exemple, sur la culture. Les choses auxquelles on ne peut rien. On parlait de mondialisation l'instant d'avant. L'inverse de la mondialisation, c'est une tournée avec Michel Legrand que j'ai faite, allez, on va se faire du mal, il y a 15, 18 ans, je ne sais pas exactement, et dans laquelle on allait de ville en ville, comme ça, on était là-bas pour un petit moment, et je sentais bien, de par l'équipe qui m'encadrait et qui me mettait à disposition le matériel et qui m'assistait, qu'il y avait un petit malaise et j'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait. Alors, il y avait en plus la barrière de la langue, parce qu'à l'époque, le Japon n'était pas tout à fait aussi anglophone qu'on veut bien le dire. Ça s'est corrigé depuis, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et un jour, au bout d'un temps infini, j'ai mon assistant, qui était lui-même un ingénieur du son reconnu là-bas, m'a fini par m'avouer que je mettais trop de grave dans mes mix. Alors je l'ai questionné, un peu interpellé par ce genre de choses, et il a fini par m'expliquer que le grave à cette époque, au Japon, était un peu de mauvais goût. Ça aurait été sans doute, si je veux faire un parallèle, comme si nous on mettait beaucoup trop de réverb ici, ou ça aurait été mauvais goût, c'était clinquant, c'était facile et c'était pas classe. Et d'un seul coup, plein de choses me sont revenues en tête, notamment ce son japonais qu'on trouvait un peu pointu, un peu étriqué, un peu... Et puis leur culture musicale, shamisen, oui. Tous leurs instruments, il n'y a pas d'instrument dans le grave. Et aujourd'hui au Japon, et je suis bien placé pour le savoir, je refais plein de choses là-bas depuis, avec des groupes dans lesquels ils sont tout autant demandeurs de sub dans leur, dans leur mix de façade aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas du tout fait. Et par exemple, je me suis aperçu de toute la différence, de tout ce qui nous séparait à ce moment-là. Alors c'est l'Extrême-Orient, c'est des insulaires, les Japonais sont parmi les Extrêmes-Orientaux encore un peu plus particuliers, mais visiblement on avait une différence culturelle qui nous faisait apprécier les sources de manière différente. Et je me suis dit, quel dommage que je ne me sois pas documenté, que je n'ai pas été là-bas avec un Japonais qui me l'aurait dit, avec qui j'ai des relations plus intimes, et qui me l'ait dit d'emblée, attention, pas trop de... Parce que j'aurais fait le son qu'ils aiment plus tôt. Et des années après, quand j'y suis retourné la première fois, j'ai tout de suite posé la question. Je leur ai dit, est-ce que si je mets du grave... Cause... Ah bah oui, bien sûr, mais évidemment, c'est comme ça que ça écoute cette musique. Les choses étaient admises. Le temps avait fait son œuvre. Mais là, par exemple, voilà, c'est flagrant. Alors, pour revenir à l'origine de la question, c'est-à-dire des micros sur des sources particulières dans certains endroits du monde, pas vraiment, parce que comme on le disait à l'instant, les modèles se sont faits assez tôt et les gens gardent beaucoup des choses qui fonctionnent, c'est-à-dire des micros à lampe célèbres qu'on aime toujours ou presque toujours sur toutes les voies, avec un préampli associé, avec on en parlait tout à l'heure avant l'émission, ce sont des choses qu'on a complètement le droit de bousculer, mais ça restera toujours une espèce de maître étalon auquel on se mesure en se disant est-ce que c'est mieux ou moins bien que ça, et ça, je pense que ça a essaimé, je pense que ça existe aux quatre coins du monde, tout le monde sait que un U47 Neumann, pour pas le nommer, sur un 1073, ça marche. On peut en parler au fin fond de l'Inde, c'est pareil, ils le savent.
Justement, je voulais poser une question à propos du U47. Est-ce que vous avez des artistes qui viennent et qui demandent, peut-être plus par snobisme qu'autre chose, un U47, alors que parfois cela ne se justifie pas?
Alors, de toute façon, quand on arrive dans une espèce de seconde partie de carrière, on va dire, celle dans laquelle on est un petit peu plus reconnu pour ce qu'on fait, on a une chance inouïe, c'est qu'on est écouté. On a un petit peu d'impact et on sent qu'on peut un peu influer. Alors, il arrive qu'il y ait des velléités dans ces directions-là, d'autant plus qu'on travaille de plus en plus avec des artistes qui sont eux-mêmes en prise avec des problèmes techniques. Donc, ils connaissent un peu ces références et ils demandent et ils souhaitent. Mais quand ils viennent vous chercher pour une patte particulière, une couleur, une façon de faire, c'est rare que ça aille jusqu'à un rapport de force. Très souvent, si on pense qu'on est complètement à côté avec le 47, puis alors, le studio a ça de magique, hein, c'est que si vraiment on veut être démonstratif, on va mettre les deux. Et puis on va écouter les deux, et puis on va se mettre d'accord sur ce qu'on entend, parce que quelquefois, on se fait aussi des idées. Mais je dois dire que mon U47, celui que j'ai choisi entre plusieurs, et que j'associe à une chaîne que j'aime vraiment, c'est vrai que je m'en sers très très souvent pour les voix, parce que c'est très rare que ça n'aille pas sur une voix. Il y en a maintenant... Il y a des artistes de premier plan, comme Josh Groban, avec qui j'ai beaucoup travaillé, où on est arrivé à d'autres choix, au bout du compte, pour des questions de dynamique, mais parce que c'est une voix qui se situe entre le lyrique et le moderne, et qui ne veut pas trop d'effets de proximité. Alors là, d'un seul coup, on utilise des micros plus neutres, qui ont une grande, grande sensibilité, qui au contraire vont respecter totalement le timbre de départ, et rien lui ajouter. Mais souvent, on revient quand même à nos premiers amours.
C'est incontournable, alors, un U47 dans un studio?
Non, c'est pas incontournable, parce qu'il y a d'autres très belles choses. Mais si on veut avoir ce son référence, et si on veut pouvoir... En tout cas, un U47 en très bonne forme, sur une certaine chaîne qu'il suit avec des préamplis Neve ou avec des préamplis très transparents pour respecter ce micro, c'est vraiment une valeur à laquelle on peut se référer tout le temps. Et j'allais dire, c'est même important de l'avoir pour pas l'utiliser. C'est-à-dire que les rares fois où il faudrait pas l'utiliser... C'est ce qu'on disait à l'instant, c'est presque bien de pouvoir essayer quand même et de voir pourquoi on obtient mieux. C'est un micro un peu plus bruyant, c'est un micro plus ancien, donc il faut lui pardonner plus de choses. Voilà, si l'instant est très très précieux, c'est peut-être pas celui que je vais choisir, mais si on a envie d'ajouter à la voix, de lui donner cette richesse qu'on aime tant, et ben on fait chauffer le U47, quoi. C'est un peu ça le truc.
Pour vous, qu'est-ce qu'un bon studio? Qu'est-ce qui est incontournable à avoir dans un studio?
Alors aujourd'hui, un bon studio n'est pas du tout, à mon sens, qu'il l'aurait été il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'un bon studio, ça ne peut plus être un studio qui va à tout le monde. Je ne crois pas à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choix sont devenus assez importants. Je me faisais la réflexion aujourd'hui en regardant autour de moi, dans mon propre studio, le nombre d'appareils que j'aime, que j'ai concentré. Et je me disais que quand je vais encore, et ça devient rare, dans des grandes cabines qu'on a tous fréquentées et dans lesquelles tout est proposé, j'ai finalement une concentration moindre de machines qui me conviennent et je peux faire moins de choses parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et il y a des machines que j'utiliserai jamais dans les panoplies qui me sont proposées et d'autres que j'aurais envie d'utiliser trois fois pour les faire fonctionner simultanément. Donc le bon studio pour moi, c'est celui qui est en parfaite adéquation avec la personne qui va s'en servir. Alors, il y a quand même plusieurs phases dans le travail de studio. Il y a la prise et puis il y a la post-production, il y a le traitement. Moi, je me suis volontairement concentré sur cette deuxième partie parce que je ne suis pas de taille à lutter pour me faire un plateau de 300 mètres carrés avec 12 mètres sous plafond comme je les aime. Donc, je vais chez les autres pour enregistrer. Et quand il s'agit de grosses formations ou même de formations simples, mais je veux dire plus qu'un musicien à la fois, et je n'enregistre chez moi que des voix, des instruments solistes ou des toutes petites formations de cordes. J'ai fait un quatuor une fois, je fais des choses comme ça. Mais j'essaye pas de me battre sur ce terrain-là. Mais par contre, dans les cabines techniques, puisqu'on a deux cabines, il y a vraiment beaucoup d'outils qui nous sont cher. Alors, quelques-uns sont communément admis comme étant des machines référence, et puis quelques autres sont nos choix vraiment propres.
Vous faites partie de quel type d'ingénieur du son ? Êtes-vous celui qui est tourné vers le vintage ? Ou bien vous faites un mix entre ce qui apparaît et ce qui se crée actuellement et l'ancien ?
Ouais.
Ou alors vous faites table rase du passé et vous achetez systématiquement ce qui vient de sortir ?
Non, alors surtout pas. Et je suis vraiment à la croisée des chemins. C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'aujourd'hui j'utilise des outils informatiques d'une grande, grande souplesse, d'une grande neutralité qui me sont devenus absolument indispensables dans ma manière de faire. Mais je collectionne aussi plein d'outils. Alors, ma liste d'équipements de studio parle pour moi, quoi, parce que je collectionne énormément de machines vintage. Mais alors, c'est pas le vintage à tout prix. C'est-à-dire que dans le vintage, il y a des choses que j'aime et des choses que j'aimerais jamais. Mais dans ce que j'aime, il y a des machines prodigieusement équilibrées. Et encore une fois, on se les est mises dans l'oreille, on sait s'en servir, on a développé un savoir-faire. Par rapport à l'avancée de la technologie, de toute façon, il y a toujours plusieurs manières de raisonner. Moi, je me rappelle que les Américains sont passés au numérique en termes de bande bien après nous. Et je me suis longtemps demandé pourquoi. Et en fait, parce qu'ils ont voulu s'éviter toute la première génération de machines qui n'étaient pas très au point et qui étaient des grands refroidisseurs de son devant l'éternel, utiliser la technologie déclinante, mais qui maîtrisait parfaitement, qui était l'analogique. Et moi, j'ai souvenir, justement, à Real World, de petits tape opérateurs qui arrivaient le matin en disant « On va faire un plan de piste. Tu enregistres une batterie aujourd'hui. Quel est ton plan de piste ?» Alors, je disais « Mais quelle drôle de question. » Et en fait, je comprenais ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que j'avais une ou deux pistes qui étaient dévolues à la grosse caisse sur lesquelles on donnait énormément de bandes passantes pour descendre dans le grave. Les deux suivantes, c'était du charlet. Donc, on se fichait complètement. On coupait tout ce qu'il y avait en dessous de 150. Par contre, elles avaient un niveau terrible pour qu'on ait un rapport signal bruit amélioré. En fait, ils personnalisaient. Ils faisaient ce qu'on appelle le tape tone, la bande de fréquence pour la session. Elle n'était valable que pour cette session. La machine était alignée pour ce qu'on faisait et il tirait un parti incroyable d'un multipiste analogique. Avant d'en arriver là sur un numérique, il se passerait du temps. Et c'est pour ça qu'ils ne se sont servis de ces machines-là que bien après. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, je ne fais pas tellement partie des essuyeurs de plâtre ou alors les 10% pour la recherche. C'est-à-dire, je vais adopter une machine complètement nouvelle et un plugin nouveau au milieu d'un environnement que je maîtrise bien et je vais l'essayer que dans certaines circonstances. Parce qu'on a des responsabilités par rapport à la productivité de ce qu'on va faire. C'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais il faut être très clair. On passe du temps au studio, c'est ce temps qui est souvent facturé, qui sert de référence à la transaction. Donc on nous demande de faire vite et bien. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour essayer à ce moment-là, donc il faut essayer peu de choses, il faut aller vite à des choses dont on sait qu'elles sont des valeurs sûres, et puis sinon, de temps en temps, quand on est son propre patron, comme j'ai la chance de l'être, se dire, ben tiens, je prends pour moi une demi-journée pour essayer ça, et ça c'est une liberté fantastique, ça, c'est très intéressant de le faire.
Très bien, nous allons arrêter cette première partie et recommencer dans quelques minutes. Je vous remercie d'être venu et de...
Avec grand plaisir.
Et de pouvoir continuer tout à l'heure, toujours sur le matériel, toujours sur les artistes, toujours sur les ingénieurs du son.
Absolument, avec grand plaisir.
À tout de suite, Pierre. Ici, Autre Radio, Autre Culture. Au revoir. Autre Radio, Autre Culture.